Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Chers auditeurs, nous avons le plaisir, Aline Thomazin et moi-même, d'accueillir Rémi Pech. Bonjour Rémi Pech.
Bonjour.
Vous êtes professeur honoraire de la faculté de Jean Jaurès, Université Jean Jaurès, professeur en histoire moderne et contemporaine. Et vous allez aujourd'hui nous entretenir, peut-être actualité oblige, je ne sais pas, d'un ancien maire de Toulouse.
Ben oui, je ne sais pas si l'actualité l'oblige, mais en tout cas, l'actualité d'une parution l'oblige. C'est un ouvrage qui a été écrit par Rémi Pech, qui s'intitule « Étienne Billière, un maire visionnaire au Capitole ». Alors, Étienne Billière, vous allez tout nous dire sur Étienne Billière, son action de maire et ce qu'il a laissé aujourd'hui. Donc c'est un Toulousain.
Oui, c'est un Toulousain et on peut dire que c'est un Toulousain de la base, du peuple, puisque son papa était maître charpentier, compagnon du Tour de France, et donc un très beau charpentier, et sa maman était ouvrière à la manufacture des tabacs. On appelait ça en occitan la Stabatairos. Et c'était une grande entreprise à Toulouse. C'était la plus grande même pendant longtemps, puisqu'il y avait à peu près un millier d'employés, dont 90% étaient des femmes.
Et beaucoup d'ailleurs du quartier Saint-Cyprien aussi.
Exactement, oui, le quartier Saint-Cyprien qui était assez proche de la manufacture par les ponts. Et donc, il a eu une origine très populaire. C'était un élève brillant à l'école primaire. Puis, il a bénéficié de l'école primaire supérieure qui venait justement d'être installée sous la municipalité de Sirvaines.
On va en reparler.
Dans le quartier Saint-Michel, c'est l'école Berthelot.
Ah oui, oui.
Mais il n'est pas allé au-delà du certificat d'études. On peut dire qu'il était en grande partie autodidacte parce qu'il lisait énormément et puis c'était un esprit très inventif. Il a été en contact avec des techniques modernes de typographie et d'impression, de dactylographie déjà à Berthelot. Parce qu'on dit toujours que c'est Bedouce qui l'a, coaché, on dirait aujourd'hui, là-dessus. Mais c'est inexact. J'ai trouvé qu'il avait déjà eu un professeur de Berthelot qui l'avait initié, qui lui avait parlé des machines à écrire, etc.
Ah oui, ce qui était très nouveau.
Après, ce qui est juste, c'est que Sirvaines a équipé sa grande entreprise d'imprimerie qui avait un rayonnement supérieur au Pays toulousain. Elle irriguait tout le Midi. Et il l'a équipé d'outils de reproduction performants. Et Billière était très passionné par cela. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a permis de créer lui-même une école de dactylographie.
Ah, très bien. Ensuite, donc il a commencé, j'imagine, à 16 ans après sa période.
Chez Sirvin. Rapidement. Alors, je ne sais pas si ses parents ont reculé sur l'inscription au lycée ou si il a été entraîné dans le travail, comme la plupart des jeunes issus du peuple à ce moment-là.
En tout cas, il avait un esprit entrepreneurial parce qu'ils ont fondé avec son épouse.
Il faut le remarquer. Et une des plaques qui ont été apposées pour perpétuer son souvenir, c'est rue Saint-Rome. Il y a eu un congrès en 1930, je crois, ou 1931, l'association de dactylographes internationales. Et c'est au-dessus, cette plaque est posée au-dessus de la plus petite rue de Toulouse, la rue Bédelière.
Bédelière, ah oui.
On arrive à la lire
encore. Écoutez, vous m'apprenez quelque chose.
C'est donc rue Saint-Rome que se trouve la plaque, oui.
Elle a été apposée en présence d'Étienne Billière. Et je pense qu'il y est allé de bon cœur, puisque c'était un peu son domaine avant qu'il soit maire. Parce que À partir du moment où il a été élu maire, il ne s'est plus occupé de son école. C'est sa femme, Rose, qui était elle-même institutrice au départ. C'est sa femme qui a dirigé cette entreprise. Hein. Ce qu'on peut souligner aussi, pour en finir avec ce travail, cette qualification, c'est qu'il avait été recruté à la Chambre des députés pendant 2 ans avec sa femme. Ils ont pris des...
Ils ont été employés à la Chambre des députés.
Sténographe des débats, oui.
Et c'était le début de la sténo. Et donc, tous les débats de l'époque du bloc des gauches avec les lois de Combes et puis la séparation de l'État, Bilière y était dans la préparation de ces grandes lois du début 20e siècle.
Oui, oui, oui. Donc, quelqu'un quand même de très, à la fois, de très intéressé par la technique, mais de très intéressé aussi par la vie publique.
Oui, oui, oui. Et quelqu'un capable de voir moderne, quoi, d'avoir des projets de modernisation. Je crois que ça a beaucoup joué. Hein.
Et ce secteur ouvrier, donc, autour de l'imprimerie, etc., était... peut-être plus politisé que la moyenne. Donc
mais ça, c'est absolument certain. Surtout que le père Sirvin, qui était un radical, je dirais, la particularité, ça, André Cavanis l'a étudié, c'est la migration des noms des partis politiques et le parti radical. Alors on revient sur cette épithète actuellement. Mais c'était parti très en avant. Ouais. Et puis, petit à petit, ça s'est un peu émoussé, quoi. Déjà, Duportal, c'est un personnage compliqué, et Sirvène encore plus. Sirvène était il affichait radical, mais c'était un républicain modéré. D'ailleurs, ouais. Il n'a eu qu'un mandat, Sirvène. Mais il était extrêmement tolérant et ouvert au débat, puisqu'il a recruté plusieurs vedettes de la gauche socialiste, Charles Lafitte, surtout, qui lui alors était un socialiste ardent, un blanquiste très ardent, et Étienne Bilière et d'autres.
Et Étienne Bilière s'engage en politique à quel âge et sur quelles circonstances?
Là, j'ai pas
une élection municipale.
Vous savez, à cette époque-là, les partis étaient je vais employer un mot qui était très courant dans ma jeunesse, un groupuscule. Alors, je ne sais pas s'il y avait des délivrances de cartes, etc. Mais enfin, on le voit apparaître dans les années 90, hein, c'est-à-dire au moment où les radicaux continuent de s'appuyer sur les socialistes, les révolutionnaires, et ils ménagent les ouvriers en construisant ou en aménageant plutôt la Bourse du Travail, qui est toujours placée au même endroit, et qui est un ancien édifice religieux récupéré bien avant la loi de séparation des États. Et ils ménagent sur leur liste quelques postes pour ces révolutionnaires. C'est comme ça que De Fitte et Bedou se sont nommés. Et Bedou, ça a été un conseiller municipal très actif. Il s'occupait notamment des fourneaux économiques, c'est-à-dire ou des soupes populaires, si vous voulez, pour soulager un peu les pauvres.
Alors justement, Étienne Bilière est maire, je crois, en 1925.
Oui,
il est élu maire.
Il représente une reprise de la mairie par les socialistes qui avaient régné sur la mairie à deux reprises, de 1906 à 1908, profitant de zizanie interne au Parti radical, justement, avec Bedous, qui a été vraiment le premier maire socialiste de Toulouse, qui est d'ailleurs quelqu'un de remarquable, lui aussi, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et le deuxième maire socialiste, ça a été Jean Rieux. Il a une belle avenue à Toulouse. Et qui est, Jean Rieux, ceci de particulier, c'est qu'il a été élu en 1912 et qu'il a été obligé de faire face à la guerre de 14. C'est-à-dire c'est lui qui a organisé à la fois l'implantation des usines de l'arrière, qui ont été des usines chimiques, la poudrerie, la cartoucherie, etc., et des premières usines aéronautiques. Donc Jean Rieux a joué un rôle assez important, et en même temps de ravitailler Toulouse, qui a connu une croissance assez soudaine par l'afflux de réfugiés. Réfugiés des zones occupées du nord de la France, de la Belgique aussi, c'est l'époque où beaucoup de Belges sont installés à Toulouse, etc. Et donc, après la guerre, les élections municipales se sont faites d'une façon très rapide, et il y a eu un changement. Les radicaux ont compris qu'ils allaient être éliminés, rayés de la carte. Ils ont fait une alliance avec la droite et ils ont été élus de justesse, mais ils ont été élus. Et donc, ils ont ravi la mairie aux socialistes en 19. Et c'est le fameux Paul Feugras, immortalisé sous le surnom de Tocomanetos, c'est-à-dire en mettant l'accent sur ça, un peu de démagogie, mais on fait pas plus que
alors,
les autres.
Est-ce que pour les Toulousains d'aujourd'hui, il y a quand même, on peut voir un certain nombre d'équipements que l'on doit à Étienne Billière,
mais bien sûr,
qui avait appliqué des théories hygiénistes, donc oui. L'éducation des populations et des milieux populaires, le sport, l'hygiène, oui. Et... Alors, je commencerai peut-être par les bibliothèques municipales, oui. avec un complice qui a été formidable, qui est Jean Montariol.
Jean Montariol et un autre complice qu'il ne faut pas oublier, qui est Jules Julien, l'adjoint chargé de l'instruction publique, comme on disait. Jules Julien, autre élément populaire, il y en a beaucoup, de l'équipe Billière, puisqu'il était comptable à la Compagnie du Midi. Et donc, c'était un cheminot, mais un peu gradé, on peut dire. Hein. Et Julien a fait un discours lors de l'inauguration assez extraordinaire. Mais donc,
alors, c'était un maire visionnaire, c'est vrai, oui. Mais ça a été un maire très entrepreneur aussi. Parce
bien
que je reviens, pardonnez-moi, vous savez, on est toujours un peu près du patrimoine au Toulousain de Toulouse, mais la bibliothèque municipale, les bains-douches... dont
voilà,
un
oui.
Subsiste plusieurs, même deux, celui de Saint-Cyprien, un peu arrangé. Et puis les kiosques, on va au-devant de la population en permettant d'accéder finalement à la lecture aussi.
Oui, oui,
voilà.
Oui.
Donc merci infiniment pour cette évocation d'Étienne Billière. On aurait pu prendre plus de temps, mais malheureusement,
c'est sûr,
l'horloge
même
est là,
fait quelques
mais
digressions,
vous reviendrez, et c'était passionnant. Merci
et quand
beaucoup.
Vous voulez.
Merci Rémi Pêche, et le livre est 1925 et publié aux éditions Midi-Pyrénéennes.